Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 2, scène 30. La lueur du premier incendie du 2 septembre fut aperçue de plusieurs côtés à la fois et produisit des effets tout différents sur les habitants qui s'enfuyaient et sur les troupes forcées de se replier. À cause des nombreux objets qu'ils avaient oubliés et qu'ils envoyaient successivement chercher, à cause aussi de l'encombrement de la route, les Rostov n'avaient pu quitter Moscou que dans l'après-midi. Ils furent donc obligés de coucher à 5 verstes de la ville. Le lendemain, réveillés assez tard dans la matinée et rencontrant à tout moment de nouveaux obstacles sur leur chemin, ils n'arrivèrent qu'à 10 heures du soir au village de Bolchaïa Mitichtchi, où la famille et les blessés s'établirent dans les isbas des paysans. Une fois leur service fait, les domestiques, les cochers, les brosseurs et des officiers blessés soupèrent, donnèrent à manger aux chevaux et se réunirent dans la rue. Dans une de ces isbas se trouvait l'aide de camp de Raïevski. Comme il avait le poignet brisé et qu'il éprouvait d'intolérables souffrances, ses gémissements résonnaient d'une façon lugubre dans les ténèbres de cette nuit d'automne. La comtesse Rostov, qui avait été sa voisine à la couchée précédente, n'avait pu fermer l'œil. Aussi avait-elle choisi cette fois une autre isba pour être plus loin du malheureux blessé. L'un des domestiques remarqua tout à coup une seconde lueur à l'horizon. Ils avaient déjà aperçu la première et l'avaient attribuée au cosaque de Mamonov, qui, d'après eux, aurait mis le feu au village de Malaya Mitichtchi.
« Regardez donc, camarades, voilà un autre incendie !»
dit-il. Tous se retournèrent.
« Mais oui, on dit que ce sont les cosaques de Mamonov qui ont mis le feu. Pas du tout, ce n'est pas ce village, c'est plus loin, on dirait que c'est à Moscou. »
Deux des domestiques firent le tour de la voiture qui leur masquait l'horizon et s'assirent sur le marchepied.
C'est plus à gauche. Vois-tu la flamme qui se balance? Ça, mes amis, c'est à Moscou que ça brûle.
Personne ne releva l'observation et ils continuèrent à regarder ce nouveau foyer qui s'étendait de plus en plus. Daniel, le vieux valet de chambre du comte, s'approcha du groupe et appela Mishka.
Que regardes-tu, mauvaise tête? Le comte appellera et il n'y aura personne. Va vite ranger ses habits.
Mais je suis venu chercher de l'eau. Qu'en pensez-vous, Daniel Terentich? N'est-ce pas Moscou?
Daniel Terentich ne répondit rien, et chacun continua à se taire. La flamme ondulait avec une nouvelle force et gagnait de proche en proche.
Que le bon Dieu ait pitié de nous, le vent, la sécheresse,
dit une voix.
Ah, Seigneur, vois donc comme ça augmente. On aperçoit même les corbeaux. Que le Seigneur ait pitié de nous, pauvres pécheurs. N'aie pas peur, on l'éteindra. Qui donc l'éteindra?
Demanda tout à coup Daniel Terentich d'une voix grave et solennelle.
Oui, c'est bien Moscou qui brûle, mes amis. C'est elle, notre mère aux murailles blanches.
Un sanglot brisa sa voix, et alors, comme si on attendait que cette triste certitude pour comprendre la terrible signification de cette lueur qui rougissait l'horizon, des prières et des soupirs éclatèrent de toutes parts.